Vous écoutez France Culture.
Le journal présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Surprise, déception et colère à l'UNRWA, Donald Trump annonce qu'il cessera sous peu de financer l'Agence des Nations Unies en Palestine. Décryptage de cette décision avec Marie Semelin à Jérusalem. Au Brésil, le tribunal supérieur électoral invalide la candidature de Lula à la présidentielle. Et Lula, sous les verrous, reste le candidat du Parti des Travailleurs. Explication de David Ravier. Nous nous rendrons également dans cette édition en Algérie, dans la préfecture de Blida, où l'épidémie de choléra est désormais circonscrite. À Washington, où se déroulent les funérailles nationales de John McCain. Sans oublier la bulle écho de Marie Viennot, positionnée à New York, Marie elle aussi s'est intéressée aux 10 ans de la grande crise de 2008. Le porte-parole de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient s'insurge contre la suppression des versements américains à cet organisme vital pour des millions de Palestiniens et rejette les constats du Département d'État américain selon lequel les pratiques budgétaires de l'agence présentent, je cite, des défauts irrémédiables, fin de citation. Le montant de l'enveloppe américaine, il faut le savoir, s'élevait à 350 millions de dollars en 2017. Ossam Zomlott, qui représente officiellement l'OLP à Washington, estime, je cite, que l'administration américaine a fait sienne les positions israéliennes les plus extrêmes. Les États-Unis renient, poursuit-il, leurs engagements internationaux et leurs responsabilités. Quelle lecture faire de ces choix de l'administration Trump? Élément de réponse avec notre correspondante au Proche-Orient, Marie Semelin.
La stratégie américaine, c'est d'enlever les problématiques les plus épineuses de la table dans le conflit israélo-palestinien plutôt que de les inclure dans de futures négociations. C'est d'abord Jérusalem que le président américain Trump a dit avoir retiré de l'ordre du jour en reconnaissant la ville sainte comme capitale d'Israël et en y déménageant l'ambassade américaine. Avec l'annonce d'hier, c'est désormais la question des réfugiés palestiniens que les États-Unis veulent écarter. Pour le département d'État américain, l'UNRWA, l'agence des Nations Unies qui leur est consacrée, augmente sans fin et de manière exponentielle le nombre de Palestiniens éligibles à ce statut. 5 millions d'entre eux en bénéficient aujourd'hui. Cette position est aussi celle d'Israël qui refuse absolument l'idée d'un droit au retour de ces réfugiés sur leur terre quittée en 1948 à la fondation de l'État hébreu. Côté palestinien, on dénonce de nouveau une perspective américaine calquée sur celle d'Israël qui rend inacceptable le statut de médiateur que les États-Unis veulent s'attribuer. Depuis fin 2007, Ramallah n'a plus de contact avec Washington et refuse d'entendre parler du deal du siècle que promet Donald Trump pour un règlement du conflit et que pour l'instant, personne ne semble avoir vu.
Les Nations Unies, par la voix de son secrétaire général, appellent les autres pays à aider à combler le déficit financier de l'UNRWA. Dès hier, l'Allemagne a annoncé une hausse substantielle de son aide. La Jordanie s'emploie, elle, à organiser le 27 septembre prochain une conférence dédiée au financement de l'Agence des Nations Unies en Palestine. L'ONU, ciblée cette fois au Nicaragua, sa mission pour les droits de l'homme, a tout bonnement été expulsée de ce pays au bord du gouffre pour avoir rédigé un rapport qui, en toutes lettres, dénonce un climat de peur. Daniel Ortega, président en exercice, lâché par le patronat et l'église, entouré de quelques affidés, fait régner la terreur au Nicaragua. Un président emprisonné depuis le mois d'avril pour corruption passive et blanchiment d'argent ne peut être candidat à la présidentielle brésilienne en l'occurrence. Hier soir, le tribunal supérieur électoral invalidait la candidature de Luiz Inácio Lula da Silva, levé de bouclier de ses soutiens et des partisans de l'ex-président sous les verrous. Bonjour David Ravier.
Bonjour Mathieu.
David, le Parti des Travailleurs ne désarme pas, comment peut-il s'y prendre?
Eh bien, pour l'instant, le Parti des Travailleurs ne peut s'appuyer que sur la justice pour faire changer les choses. Si à l'heure actuelle, l'ancien président purge sa peine de 12 ans de prison, il a encore la possibilité de faire un recours auprès de la Cour suprême brésilienne pour faire valoir ses droits. Hier soir, le tribunal supérieur électoral brésilien a jugé qu'il était impossible pour un candidat de se présenter aux élections présidentielles sans un casier judiciaire vierge. Or, bien que Lula soit condamné en appel pour corruption et blanchiment d'argent, la décision pourrait être invalidée par la Cour suprême, ce qui devrait, selon le Parti des Travailleurs, rendre à l'ancien président un casier judiciaire vierge et donc la possibilité de se présenter aux élections. C'est d'ailleurs la position adoptée par le Comité des droits de l'homme de l'ONU qui préconise de respecter le droit de Lula à présenter sa candidature tant que tous les recours juridiques ne sont pas épuisés.
Mais alors David, on comprend bien l'idée d'un recours juridique qui pourrait blanchir l'ancien président, mais pourquoi ne pas investir directement quelqu'un d'autre?
Eh bien parce que Lula, en fait, est encore très populaire au Brésil malgré toutes ses affaires. Il a certes une personnalité clivante, mais il pourrait faire gagner la gauche. Quand on regarde en fait le dernier sondage avant l'annonce du tribunal supérieur électoral, l'ancien président était en tête avec 39% d'intention de vote au premier tour, soit 20 points de plus que le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro. Donc si jamais Lula ne peut pas se présenter, le Parti des Travailleurs a peur de perdre les élections. Sachant que la personne amenée à lui succéder serait Fernando Haddad, le maire de Sao Paulo, qui n'est pas très populaire dans sa ville et dans le pays, et qui ne recueille pour l'instant que 4% d'intention de vote.
Merci de vos explications, David Ravier. Le ministère de la Santé algérien est confiant. L'épidémie de choléra, déclarée au début du mois d'août, serait en voie d'être éradiquée. Le nombre d'admissions et de patients hospitalisés a considérablement chuté. On l'avait localisée dans 6 régions. Elle serait limitée à la wilaya, la préfecture de Blida. Ça va mieux, moyennant quoi, l'inquiétude n'est pas dissipée. Les questionnements demeurent, comme l'a constaté à l'hôpital de Boufarik, Laïla Berato.
Selon les autorités, plus de 60% des patients hospitalisés depuis le début de l'épidémie ont quitté l'hôpital. Mais certains d'entre eux sont toujours en réanimation. Le directeur de l'hôpital de Boufarik, Reda Derbouch.
On a quelques cas en chien.
Il y a des cas qui sont compliqués parce qu'ils ont des maladies chroniques. Et avec la diarrhée, la déshydratation les a beaucoup affectés.
Après l'hospitalisation, il faut au moins 3 jours pour confirmer si le patient est atteint ou non du choléra. Cet homme n'est pas autorisé à voir son épouse. Il attend des nouvelles des médecins.
On ne sait pas encore. Les analyses ne sont pas revenues. Il y a des malades qui ont fait les analyses avant elles. C'est sorti positif. Ils vont mal. J'espère qu'ils iront mieux. Ma femme, je pense qu'elle n'a rien.
Les familles des patients ont toujours du mal à comprendre ce qui a provoqué l'épidémie. Le directeur, lui, tente de les rassurer.
L'eau ? Heureusement, ce n'est pas l'eau. Sinon, tout le pays serait malade.
Les autorités estiment que pour la région de Blida, là où se trouve l'hôpital, l'épidémie est circonscrite. 3 semaines après les premières hospitalisations, on ne sait toujours pas ce qui est à l'origine de l'apparition du choléra.
En raison des combats à l'arme lourde entre milices rivales qui se poursuivent dans les quartiers sud de la capitale libyenne Tripoli, les vols, on l'a appris ce matin, ont été déroutés à l'aéroport de Misrata. Le 22 avril 2011, John McCain avait été acclamé par les membres du Conseil national de transition libyen à Benghazi, à l'est. C'était alors la plus haute personnalité américaine à se rendre sur le sol libyen depuis le soulèvement contre le régime de Muammar Kadhafi le 19 mars de cette même année. Le sénateur républicain, décédé le 25 août dernier à l'âge de 81 ans, a droit, vous le savez, à des funérailles nationales. Cet après-midi, 2 ex-présidents prendront la parole au terme d'une semaine d'hommage rendue à un héros américain. Washington, Gregory Phillips.
Hier, c'est sous la coupole du Congrès à Washington que ses pairs et le patron de la Chambre des représentants, le républicain Paul Ryan, ont rendu hommage à l'ancien sénateur. Son cercueil recouvert du drapeau américain a été exposé toute la journée et des milliers de personnes sont venues le saluer. La veille, c'est chez John McCain en Arizona qu'un démocrate, cette fois Joe Biden, l'ancien vice-président d'Obama, a prononcé ces mots, bouleversé par l'émotion.
My name's Joe Biden.
Je m'appelle Joe Biden.
I'm a Democrat.
Je suis démocrate. Et j'aime John McCain. J'ai toujours considéré John comme un frère, mais avec lequel on avait beaucoup de disputes de famille.
Tout à l'heure, George W. Bush et Barack Obama, qui avaient battu McCain à la présidentielle de 2008, prendront tous les deux la parole. Mais conformément à la volonté du sénateur défunt, le président Trump n'a pas été invité. Il sera représenté par son chef de cabinet, le général John Kelly. La liste des invités et de ceux qui ne le sont pas dit d'ailleurs beaucoup de McCain, républicain mais capable de transcender les clivages politiques, un anticonformiste qui aura marqué la vie politique américaine pendant presque 40 ans, sans jamais accéder à la fonction suprême.
God bless John McCain.
John McCain, héros américain, et ses faits d'armes, son avion de chasse abattu, il est fait prisonnier puis torturé pendant la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam et combien d'autres auront été au sommaire du festival Visa pour l'image de Perpignan qui fête cette année ses 30 ans. Cette édition marquante s'ouvre aujourd'hui avec quelques recommandations articulées avec cœur par son cofondateur Jean-François Leroy. Ces recommandations, vous allez l'entendre, vont aux jeunes photoreporters aimantés par les conflits.
Je ne prends plus en considération des photographes indépendants qui partent sur des terrains risqués sans avoir la garantie d'un magazine. Vous savez, je prends toujours l'exemple de João Silva. João Silva, il a sauté sur une mine en 2012. Il a eu les 2 jambes coupées. Il a eu 97 opérations. Il est resté en chambre stérile, le ventre ouvert pendant 2 mois. hein, parce que le ventre avait été... S'il n'avait pas eu l'assurance du New York Times, ce mec serait mort. Donc, j'ai envie de dire aux jeunes, ce n'est pas la peine d'aller faire la guerre pour vous faire remarquer. Regardez, dans ces 20 dernières années, pour moi, les deux histoires majeures, Stéphanie Sinclair, les petites filles qu'on marie trop tôt, elle n'a pas pris un risque, et War is Personal de Eugene Richards, qui est un des plus beaux réquisitoires contre la guerre en Irak et en Afghanistan, sans quitter les États-Unis. Donc il n'a pas, et pourtant c'est des histoires qui feront date dans l'histoire de la photographie.
Voilà, visa pour l'image à Perpignan jusqu'au 16 septembre. Une déclaration, celle de Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics, selon lequel l'arrêt du prélèvement à la source n'est pas exclu. Il évoque les potentiels effets psychologiques de la réforme censée entrer en vigueur en janvier prochain et vient ainsi nourrir ce qui s'apparente au psychodrame politique de la rentrée. Il est 12h41, l'heure de retrouver notre rendez-vous économique du samedi.
La bulle économique, Marie Vienno.
Bonjour Marie.
Alors que l'on fait le bilan de la dernière grande crise financière, impossible de ne pas se poser la question d'où viendra la prochaine, quand et peut-on vraiment faire sans une prochaine crise? Pour trouver des éléments de réponse, partons à New York. Nous y sommes déjà, vous l'entendez. Cet été, Wall Street a battu un record de longévité à la hausse. Pendant 3453 jours, il n'y a eu aucun choc boursier. La dernière fois que ce record avait été établi, début 2000, la bulle Internet éclatait le lendemain. Une bulle éclate quand disparaît l'illusion que ce qui valait de plus en plus cher peut encore prendre de la valeur. Or, l'indice S&P 500, qui rassemble les valeurs des 500 plus grandes sociétés américaines, a augmenté de non pas 100 ni 200, mais 343% depuis 2010. Cela peut-il encore grimper ? C'est là que les financiers se divisent en deux catégories, les taureaux et les ours. Voici un ours rencontré cet été à New York lors d'une conférence censée donner la tendance des 6 prochains mois.
All cycles end, and we're just closer to that end period.
Tous les cycles ont une fin, on approche de ce moment, dit-il. Et en effet, les actifs financiers ont tellement pris de la valeur que, comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel, surtout quand les banques centrales ont prévu de ne plus arroser les marchés de liquidités. Alors les ours anticipent que le marché va baisser, ils parient sur la peur et pensent qu'il vaut mieux vendre. Les taureaux, eux, pensent que les prix vont encore augmenter et continuent d'acheter. Des stratégistes taureaux expliquent que l'économie outre-Atlantique se porte bien, que le chômage n'a jamais été aussi bas, les bénéfices des entreprises si élevés. Être taureau, c'est être optimiste ou parier sur l'avidité du marché. Le taureau, c'est d'ailleurs l'emblème de Wall Street. Mais dans la conférence où je suis allée à la CFA Society 1540 Broadway, il n'y avait que des ours. Les investisseurs demandent trop de retours sur investissement, dit cet associé d'une grande société d'investissement. Un frisson d'effroi parcourt ensuite la salle quand un analyste en vue raconte qu'un fast-food où les hamburgers sont faits par des robots va bientôt ouvrir ses portes. Pour lui, ces innovations vont avoir un effet négatif sur les emplois et à long terme la bourse. Non, Wall Street n'est pas déconnecté de Main Street. Et l'écart grandissant entre l'économie réelle, les salaires et le prix des actifs financiers inquiète bel et bien ceux qui les manipulent. Mais d'où peut venir la crise? La bulle éco n'est pas une boule de cristal, mais elle vous propose deux pistes. La première s'appelle ETF, Exchange Traded Fund, un produit financier dont les investisseurs sont très friands car il offre un bon rendement. Depuis 2008, il y en a 5 fois plus en circulation. Le problème, c'est que personne ne sait comment ces produits financiers réagissent dans un marché en baisse puisque leur essor est très récent. On retient son souffle, mais possible que cela fasse trembler Wall Street sans nous inquiéter nous. La deuxième piste est plus angoissante, et c'est d'elle dont on parle le plus. On parle d'une crise des dettes souveraines, autrement dit, ce qu'a vécu la Grèce, mais à plus grande échelle. Une incapacité pour les États endettés à trouver de l'argent sur les marchés financiers. Pourquoi cette crainte? Parce que 10 ans après la crise, si on fait les comptes, on constate que l'endettement des États a doublé. Il est proche maintenant de 64 000 milliards de dollars. À quel moment les investisseurs financiers de Wall Street et d'ailleurs se demanderont-ils s'ils seront remboursés? Quand se fera leur prise de conscience? Le plus tard possible sera le mieux. Alors souhaitons encore de longues années d'irrationalité à la finance et Wall Street. Leur confiance peut-être aveugle pour le moment nous accommode bien plus qu'on ne le pense.
La Bulle Écho, signée Marie Viennot, retrouvée sur franceculture.fr. La météo de ce samedi, du soleil sur la plupart des régions, température comprise dans l'après-midi, entre 20 et 28 degrés. Cette édition a été préparée avec Julien Loquet, à la technique Jean-Frédérix.